présente Mobilette de Frédéric Ploussard, lu par Marvin Schlick. À Zélie, Ferdinand et Anne. Chapitre 1. Les arbres aux angles improbables, leurs racines souffreteuses, les troncs ravinés par l'acide ne m'avaient pas manqué. Les fougères, les ronces, les noisetiers aux couleurs de l'automne éternel, pas davantage. Des corneilles se battent au-dessus de moi. Mes pieds subissent la succion à chaque pas. C'est vert et brun et noir. Gris également, si on y intègre le nuage triste qui nous surplombe par-delà les frondaisons. La nature est rancunière dans les parages. Cette forêt s'étend sur plusieurs milliers d'hectares, et ce que j'en vois correspond bien à l'image déprimante que j'en ai gardée. En contrebas du plateau que nous traversons, à une vingtaine de kilomètres vers l'ouest, se trouve une bourgade du nom de Clinquet, ancienne place forte construite à la sortie d'une vallée encaissée et autoproclamée capitale du Texas Lorrain, à l'époque du Texas Lorrain. Pendant des décennies, le village avait connu la prospérité grâce à la sidérurgie qui s'était développée alentour, avant que cette dernière ne décline et ne renvoie toute son humanité à la maison ou au bistrot. La suie retombe sur les hauts fourneaux abandonnés. La pluie s'infiltre dans les anciennes galeries de mines. J'y suis né. Je suis Clinquin. Ma mère est Clinquine. Mon père, c'est autre chose. Pour l'instant, je fais corps avec cette terre grasse. La bruine me détrempe le visage. Mes vêtements me collent à la peau. 10 mètres derrière moi, Mathias patauge. Dans le silence de cette mélasse où même les corneilles se taisent, je l'entends parfaitement. Il râle. Ayant grandi dans les parages, je sais qu'il n'est pas conseillé de se garer trop près. Contre son avis, j'ai laissé la voiture en bordure de la route nationale, loin derrière nous à présent. Hier soir, il s'est cru mourir dans la combinaison de plongée de son père. Troublé, il a passé la nuit à regarder en boucle la vidéo des 127 secondes en buvant du vin. Un contre-coup de notre grande frousse lacustre. Ce matin, il s'est réveillé en vrac 1 heure avant notre départ. Quel courage ! Ses douleurs ont varié pendant le trajet, devenues abdominales alors que nous marchions. Quelle abnégation ! J'ai moi-même la bouche sèche depuis notre descente de voiture. Nous progressons dans une végétation dense hors de tout chemin forestier. Des bosses et des creux recouverts d'un sous-bois épais et mou. Le dernier affaissement minier dans la zone date d'une quinzaine d'années, mais notre rythme s'en ressent. Le relais de chasse se situe devant nous à quelques centaines de mètres. C'est le lieu du rendez-vous. En pleine forêt. Un fouillis de choses gluantes et de bois morts plus loin, je me colle au tronc d'un robinier étonnamment vertical. Mathias me chuchote à l'oreille qu'il n'a jamais eu aussi mal au ventre de sa vie. Je soupire. Pire que sa péritonite en CM1. Je cherche une vue sur le relais. Une envie de chier impossible à réaliser. N'en ayant rien à foutre de ses problèmes intestinaux, je lui demande de fermer sa gueule. Les découvrir avant qu'ils nous aperçoivent. C'est l'idée. Un gros bonhomme est assis sur la table fixée au sol de la clairière. Les autres discutent devant le relais en piteux état. J'en reconnais immédiatement 2, malgré ma vue approximative. Ce qui aurait pu être rassurant, et pourtant, c'est déjà 2 de trop. Molosse et mon père. J'appuie mon front contre le tronc rugueux du robinier. Ma première pensée est que j'avais été à 2 doigts de l'appeler la nuit précédente, tandis que Mathias regardait encore et encore les dernières minutes du sien. 10 ans que je ne l'avais pas fait, pour lui annoncer que j'avais failli mourir avant lui. La vie est étrange. Un poisson me fait flipper, je pense à mon père et, quelques heures plus tard, je le découvre dans un bois. J'ai l'impression que l'arbre vibre. La dernière fois que je l'ai vu, J'étais sur le parking de l'immeuble avec mes affaires éparpillées autour de moi. Et lui, à la fenêtre de ma chambre, dans l'appartement au premier étage, a hurlé que j'allais mourir avant lui. L'homme à table est surnommé Molosse, pour sa ressemblance avec un gros jambon à l'os. C'est le fils spirituel de mon père, même si spirituel ne convient pas vraiment à leur relation. La table forestière semble sous-calibrée pour le quintal et demi de matière carnée qui repose dessus. Molosse se cure le nez avec une flûte à bec en regardant dans le vide. Le troisième homme porte une veste de cuir noir, des bottes à renfort et des gants de motard. Entre 35 et 45 ans. Une tête de gagnant. Rougeau, les cheveux clairsemés, les yeux exorbités. Il agite des mains volatiles. Il a un fusil en bandoulière. Papa a Molosse, lequel commence à souffler dans sa flûte. J'aurais pu entendre sa petite musique s'il n'y avait pas eu les récriminations incessantes de mon pote. Il me demande ce qu'on attend pour y aller. Je le rassure. Mon père est là. Nous émergeons des fourrés une dizaine de secondes plus tard. L'inconnu nous aperçoit en premier et nous met en joue. La montagne mélomane semble surprise. Papa se retourne vers nous.
L'inconnu éructe.
Ah merde ! C'est pas des clés d'antivol, ça !
Retour au pays des phrases baroques. Si mon père a déniché une sorte d'alter ego de la déconne pour se promener en forêt, il n'en montre rien. Nous sommes possiblement dans une situation où ça peut faire mal. Ah non, mon père est présent. Ah si, en fait, cette donnée n'est pas fiable.
Mathias ! C'est toi, Mathias ?
Poursuit l'homme en désignant mon ami du bout de son fusil. Trois lettres tatouées sont visibles sur le dos de sa main. H-I-L. Mathias ne répond pas.
Pourquoi t'es pas venu tout seul, trou du cul ? Bordel ! Je t'ai pas demandé d'emmener ta sœur !
Tournant son fusil vers moi.
Salopard ! Mais t'es grand, toi ! La vache ! T'es qui ?
Le conducteur.
Il rote.
Mon père tient un cactus en main. Il a toujours eu des trucs bizarres en main. Mais c'est la première fois que je le vois avec une plante verte. Un cactus dans la main paternelle, un fusil dans celle de son collègue, Molosse qui joue de la flûte, ça peut faire très mal.
Elle est où ta bagnole, conducteur ?
L'homme jette un œil aux alentours, puis à mon père.
Il va me le dire. Dès que je sais où elles sont, je saurai où elle est. T'inquiète pas, tu peux me croire, je te paierai quand j'aurai remis la main dessus.
Mon père ne semble pas inquiet, plutôt mortifié. L'autre continue.
T'es pas trop grand pour conduire, toi ?
C'est l'histoire de ma vie. La bourde initiale. Trop grand pour le conduit. Trop grand pour la conduite. Trop grand, tout court. J'opte pour une entrée en matière sans rapport avec sa question. Salut, papa. Molosse bouge. Il se rengorge de m'avoir remis. La table et le sol sous la table craquent lorsqu'il décolle ses fesses du plateau. Mon père a un sursaut. Lui aussi paraît m'avoir reconnu. Une contraction sur son visage. C'est déjà une réponse. Il ajoute
« Eh merde !»
Il s'était sûrement fait à l'idée d'en avoir fini avec moi, d'une manière ou d'une autre.